Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec une nouvelle invitée. La dernière fois, on avait eu Valentin Descaires qui était venu parler de son processus créatif à lui, de sa rigueur d'écriture, de toute la création, qu'elle soit autour du copywriting, du podcast et de plein d'autres supports différents, dont le livre. Et cette semaine, j'avais envie de vous proposer un podcast encore un peu plus différent avec un processus créatif qui est complètement inédit. Vu qu'il s'agit de création de cérémonies laïques, que ce soit pour les mariages ou pour les naissances. Et pour en parler, j'ai eu la chance de rencontrer personnellement et de parler avec Sarah pendant de longues minutes. J'espère vraiment que ça va vous plaire, c'est un échange qui m'a énormément plu. Vous allez voir que ce processus créatif-là est complètement différent des autres et surtout, il est extrêmement complet. Donc je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de tout ça pour une écriture différente. Et simplement pour rester curieux. Voilà, voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à bien noter le podcast avec 5 étoiles et à laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Et puis, on se retrouve juste après. Bonjour Sarah. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ?
Oui. Alors bon, bonjour Camille. Moi, je suis créatrice et officiante de cérémonies laïques. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, les cérémonies laïques, c'est plutôt connu en ce moment par rapport au mariage, c'est une façon de ne pas en fait imprégner le mariage de la religion et de parler plutôt du couple et de remettre le couple au centre de leur journée.
Du coup, pourquoi tu t'es lancée là-dedans à la base ?
Alors, ça a commencé par rapport à mon propre mariage. En général, c'est toujours l'histoire. Mon chéri ne voulait pas aller à l'église. Moi, j'avais pas vraiment réfléchi à la question. J'avoue que j'aurais été un peu à l'aise avec n'importe quoi. Et donc, on cherchait quand même à faire autre chose que juste la mairie, parce qu'on s'était dit que les 15 minutes républicaines de base, c'était un peu léger, d'autant qu'on demandait aux gens de se déplacer, parce qu'on l'a fait dans le sud de la France. Et donc, on s'est dit, si c'est juste pour la mairie, ça risque de faire un peu léger. Et on avait envie d'autre chose en plus. On avait vraiment envie de symboliser un peu ce mariage, cette décision-là. Et j'ai fait mes recherches, et puis je connaissais un petit peu les cérémonies laïques, mais pour le coup, ce que j'en avais vu des années auparavant, j'avais détesté. J'avais pas vu de mariage fait par une officiante professionnelle, j'avais vu que des mariages laïques officiés par des amis ou de la famille, et j'avoue que, à mon sens, ça manquait de structure, c'était pas très poétique, c'était un peu n'importe quoi. Donc quand j'ai vu cérémonies laïques pour mon propre mariage, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, à force de recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un métier derrière ça, en France, qui n'était pas très connu. Et j'ai écumé pas mal de sites et pas mal d'officiants. J'ai fait pas mal d'entretiens, donc un peu partout en France. Et j'étais jamais vraiment satisfaite par la qualité de ce qu'on proposait. C'était soit des gens qui faisaient un peu ça le week-end sur le côté, ou alors il y avait des choses un petit peu très showbiz, on parlait pas forcément des mariés, on parlait pas forcément du couple, jusqu'à ce que je trouve la personne, l'officiante qui m'a convaincue que ça y est, ça vibre, je comprends ce qu'elle veut dire et sa méthodologie, ça me plaît, donc j'ai décidé de lui faire confiance. Et au fur et à mesure de la préparation de mon propre mariage, je me suis dit c'est génial ce truc, il faut absolument que je m'y intéresse parce que moi j'étais dans un boulot dans la finance qui me plaisait pas du tout et je cherchais un peu ma voie et vraiment ça a parlé à mon cœur et on en est là aujourd'hui.
Qu'est-ce qui t'a vraiment pas plu dans celle que t'as rencontrée à la base et après on voulait savoir justement est-ce que tu t'es préparée d'une certaine manière à passer à ce stade de je consulte une officiante pour mon mariage à je deviens officiante pour le mariage des autres.
Alors, pour revenir sur le mariage laïque que j'avais vu, qui m'avait pas du tout plu, moi, j'ai trouvé que c'était assez beau, je m'excuse du terme, mais c'était vraiment un peu en mode, il faisait un peu des blagues vaseuses, il y avait pas de structure, le père de la mariée est parti sur une logorée d'un quart d'heure sur la crise économique dans le monde, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être pas le moment, et j'avais ressenti aucune émotion, en fait, et je me suis dit, à mon sens, une cérémonie, si on en est là, c'est quand même pour en sortir quelque chose d'un petit peu plus fort, et célébrer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de célébrer, quoi. Si c'est juste pour le champagne et les petits fours, autant le faire chez soi, ça sert à rien d'être invité à un mariage. Et donc, jusqu'au moment où j'ai rencontré donc cette officiante-là, qui s'appelle Stella, et si elle m'écoute, que j'embrasse très fort, qui du coup m'a convaincue qu'il y avait peut-être autre chose, et que c'était un vrai métier justement, et que ce métier-là, c'était pas juste se dire un matin je vais faire ça, et puis le faire n'importe comment. Et il se trouvait qu'en plus d'être créatrice et officiante de cérémonie, elle est formatrice sur Paris. Et donc, j'ai décidé de d'abord célébrer mon propre mariage avec elle pour ne pas influencer justement dans le sens où je prendrais la formation avant. Et donc, j'ai décidé après mon mariage de suivre la formation sur Paris où là, pendant plusieurs semaines, on est vraiment suivi et on apprend vraiment en fait qu'est-ce que c'est le métier d'officiant et qu'est-ce que ça demande, à savoir des talents d'écriture forcément. Déjà, c'est un peu la base de tout et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est beaucoup plus profond et compliqué que ce qu'on pourrait croire.
Du coup, quand tu as voulu faire cette formation à Paris, est-ce que c'était plutôt dans l'optique d'en faire vraiment ton métier ou justement, comme tu disais, il y en a qui faisaient ça un peu à côté? Est-ce que comme toi, tu étais déjà salariée, etc., est-ce que tu voulais vraiment en faire quelque chose à plein temps?
Alors au début, c'était pas du tout prévu comme ça. Au début, j'y étais vraiment en pleine de curiosité et en me disant, allez, on y va, on verra bien, même si je sentais déjà que ça me parlait beaucoup. Effectivement, une fois que j'ai suivi la formation, entre temps en parallèle, j'avais commencé à réfléchir sur un site internet. Donc, il y avait quand même une volonté de le faire, en tout cas d'aller au bout. À cette époque-là, donc c'était en 2018, c'était pas du tout une volonté de me lancer à mon compte et d'en faire mon métier à temps plein. C'était vraiment juste de se dire, dans ma région à moi, ça n'existe pas ou très peu. J'ai pas du tout point de comparaison par rapport au sud de la France ou Paris, où en général ce genre de métier est quand même beaucoup plus développé. Et je voulais ramer donc plutôt sur la Lorraine et le Luxembourg. Et au final, les choses ont un petit peu empiré au niveau de mon poste salarié. La finance, c'est quand même un monde un petit peu spécial. Moi qui suis très créative et plutôt artiste à mes heures perdues, on va dire, c'est vrai que ce monde très codifié, ça me correspondait pas. C'est même l'inverse, c'est un monde où il n'y a pas du tout la place à ses émotions. Et moi, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Donc, en tout cas, j'ai sécurisé mes premiers clients pour 2019, mes premières cérémonies. Et en fait, au fur et à mesure que ça avançait et que j'ai commencé à travailler avec eux pour mettre en place leurs propres cérémonies, je me suis dit, ouais, c'est ce qu'il me faut. Et il a fallu de nombreux mois de bataille interne avant d'oser se lancer et de se dire allez, on y va quoi.
Et du coup, ça a été vraiment un cheminement en plus. Là, c'est un peu une question pour moi, mais est-ce que ça a été un cheminement en plus de te dire non seulement je change de métier complètement, mais en plus je change de statut finalement. Enfin, tu vraiment, t'avais l'esprit de te dire je suis faite pour être indépendante finalement vis-à-vis de cette créativité, etc. que tu voulais mettre en place.
Alors j'ai une chance incroyable, c'est que mon chéri est entrepreneur lui-même, donc ça faisait déjà 4 ans qu'il avait sa société, donc c'est une chance et une malchance en même temps, je sais pas trop comment expliquer. Une chance parce que justement j'avais quelqu'un qui savait comment s'y prendre, qui a su m'épauler et me soutenir, et peut-être m'éviter pas mal aussi de petits problèmes qu'on peut rencontrer au début quand on est un peu perdu et seul. Et à l'inverse, je pense que l'avoir vu traverser toutes ces épreuves d'entrepreneur a fait aussi que j'étais quand même un peu paniquée à l'idée de devenir moi-même entrepreneur. Donc, il a fallu se poser plein de questions. C'est pas évident non plus d'abandonner le statut de salarié quand on a un salaire qui tombe tous les mois et qu'on est finalement assez tranquille sur le côté financier. Ça demande beaucoup de remise en question. Et c'est vraiment un travail personnel autant que professionnel finalement, c'est vraiment se poser la question sur ses valeurs, sur ce qu'on veut défendre et sur ce qu'on a envie que sa vie soit en fait ou devienne. Et ça demande un peu de lâcher prise, donc ça se fait pas toujours dans le calme et la bonne humeur. Il y a parfois des larmes et des cris, mais je pense qu'au final, à l'heure actuelle, je regrette absolument pas de l'avoir fait.
Tu sais ce que j'en pense. Et du coup, si on se zoome un petit peu plus sur l'écriture en elle-même, on en a déjà parlé ensemble en off, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du type d'écriture que tu utilises justement dans tes cérémonies laïques et pourquoi ce type d'écriture et justement qu'est-ce qu'il faut finalement mettre en œuvre comme technique, etc. pour une bonne cérémonie?
Alors je vais vraiment parler pour moi parce que finalement c'est l'avantage aussi des cérémonies laïques, c'est que chaque officiant ou créateur de cérémonie va apporter sa touche personnelle et c'est là aussi où c'est intéressant pour les mariés qui souhaitent faire appel à ce genre de personnes, de vraiment rencontrer plusieurs pour trouver le ou la personne qui correspond vraiment à ce qu'eux ont envie de, d'avoir pour leur mariage. En ce qui me concerne, je m'estime pas être particulièrement génialiste. Enfin, je suis pas Méline Othomb, quoi, au niveau de l'écriture. Maintenant, voilà, j'ai toujours adoré lire et écrire. Donc, je le fais un peu à l'instinct. Pour moi, le plus important, c'est d'abord de cerner le couple, de cerner les futurs mariés, parce que ben on va pas écrire une cérémonie de la même façon si le couple est super fusionnel, romantique, fleur bleue, que si on a affaire à un couple plutôt réaliste, pragmatique, voire même, enfin je sais pas, ça m'est arrivé, j'ai eu un couple plutôt geek, donc voilà, eux c'était pas du tout sur un champ lexical hyper romantique, et en même temps ben ça reste une cérémonie de mariage, donc il faut célébrer leur amour et leur histoire. Mais encore une fois, ben on part d'abord de ce cahier des charges là, de qui sont les mariés, qu'est-ce qu'ils ont envie pour leur cérémonie, et ensuite on se pose la question de ben comment est-ce qu'on va transmettre au mieux et à travers quel type d'écriture.
C'est marrant que tu en parles, parce que justement, je faisais un article cette semaine sur trouver sa cible, en fait, pour adapter son texte. Alors, c'est un petit peu triste en fiction. Enfin, on peut penser que c'est triste parce que justement, on s'est renoncé à d'autres choses, etc. Mais en fait, on se rend compte que quand on sait pour qui on fait les choses, enfin, en tout cas, dans notre tête, pour qui elle va lire ou qui va entendre, en fait, on se rend compte que moi, je trouve qu'on travaille quand même mieux et que c'est plus adapté de toute façon à la personne qui va être en face. Donc du coup, on est plutôt sur donc du storytelling, parce que tu racontes leur histoire.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment un gros travail de préparation avec eux pour apprendre qui ils sont déjà en tant que personnes individuelles, qui ils sont en tant que couple, et puis leur histoire, comment ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'on en arrive à célébrer ce mariage-là. Et une fois qu'on a ces bases-là, alors c'est marrant parce que les gens s'excusent souvent hein, de « Ah ben oui, mais je suis pas très doux avec les mots ». Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de trouver ces petites choses qui va faire que au contraire souvent les gens sont bien meilleurs en écriture juste à expliquer leur histoire que ce qu'ils pensent, et moi je suis là pour en tirer voilà les granularités, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est eux et que c'est pas juste l'histoire de monsieur et madame tout le monde.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que c'est ces petites choses et ces anecdotes et en fait finalement cette façon d'être qui fait que chaque cérémonie elle est spéciale pour chaque couple, en fait. Moi, je trouve ça top.
Ouais,
et du coup là on est vraiment sur de l'émotion, enfin quelle qu'elle soit. Et comment t'arrives à traduire l'émotion? On dit souvent voilà c'est du storytelling, etc. Mais c'est un peu un grand mot, surtout pour tous les gens qui sont pas dans la création de contenu, etc. Comment tu pourrais expliquer un peu ça?
Ouais, le storytelling, faut faire gaffe parce que c'est un peu le mot à la mode en ce moment, et puis finalement c'est un peu vague, ça englobe tellement de choses que c'est difficile d'expliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'analyser en fait leurs réponses. Alors, il y a autant de contenu pour moi dans ce qui est dit que dans ce qui n'est pas dit. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, quand ils mettent des trois petits points ou quand ils abordent juste une idée comme ça vaguement, je sens qu'il y a quelque chose à creuser en dessous, mais ils me le donnent pas. Je me dis déjà là, en général, c'est intéressant parce qu'on n'est pas là pour, encore une fois, rester générique. On n'est pas là pour faire une cérémonie lambda. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est vraiment qu'ils aient l'impression d'avoir été compris et que ce soit leur histoire qui soit dit. Après, l'émotion, on va la chercher dans ces anecdotes, dans ces souvenirs, dans ces émotions, autant dans ce qui est universel, en fait, et humain. Maintenant, si on veut que ça touche les gens, il faut être le plus précis possible. Si je parle de l'amour en général, ça sera très beau, mais ça va pas les toucher. Par contre, si j'utilise cette petite phrase qu'il lui a dit la première fois quand il l'a rencontré, ou la fois où je sais pas, elle s'est cassée la figure juste devant lui. Voilà. En tout cas, ça c'est là que l'émotion en fait elle jaillit. C'est dans ces petits moments, on va dire de blanc ou ces petits ratés, je sais pas comment expliquer, que chacun d'entre nous peut se dire ouais, j'ai déjà vécu ça, et c'est là où l'émotion en fait elle jaillit.
Donc est-ce que finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le roman, mais est-ce que tu penses que quand on s'identifie un petit peu en tant que, je veux dire, spectateur de la cérémonie, mais c'est un peu ça, hein, en tant qu'invité, est-ce que tu crois que si on s'identifie un peu plus à ce que tu racontes, etc., ça va mieux marcher ?
Complètement. Si tous les caractères, tous les personnages étaient lisses, on s'ennuierait et on n'arriverait pas à se dire tiens, ce caractère-là, je l'aime bien, il m'émeut, ou en tout cas il me fait rire. Si tous les caractères étaient des héros en mode super lisse, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est autant ce qu'ils sont que ce qu'ils sont pas. Et finalement, dans un couple, c'est exactement la même chose. C'est autant ce qui les rassemble que finalement ce qui les sépare, mais dans le bon sens du terme.
Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé que ça marche pas, justement, on en parlait un peu avant, mais des cérémonies, enfin, pas qui marchent pas, mais qui, où tu sens que c'est pas forcément, ça a pas forcément pris, ou ça s'est pas passé exactement comme toi tu l'avais imaginé?
Alors, il y a plein de moments où ça peut râper, où ça peut déraper, ce genre de, oui, de préparation. La première, c'est au niveau de, quand je leur pose mes nombreuses questions, ben, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec parler d'eux, avec, ouais, c'est hyper personnel. Donc, forcément, ben, il y a des moments où moi, je dois intervenir gentiment en leur disant, voilà, n'oubliez pas que c'est pour vous. Tout ce que vous me donnez reste, bien sûr, confidentiel. Et, vous pouvez aussi me donner des informations sur vous et juste me dire, voilà, j'ai pas envie que ça sorte pendant la cérémonie. Moi, ça me permet quand même de cerner qui ils sont. Le problème avec ça, c'est que tout ce qu'ils ne me donnent pas, ben moi, va falloir que je bouche les trous et que je crée. Et c'est là où j'ai un risque de me planter. Alors que s'ils sont hyper précis sur leurs souvenirs, sur leurs ressentis, ben moi, je peux mettre vraiment des mots là-dessus. Donc, il y a ce travail de préparation là où effectivement, ça peut un peu bloquer. Et puis après, parfois, il y a le jour J, où finalement, la préparation s'est hyper bien passée, et le jour J, on se retrouve devant une audience qui, finalement, pour X ou Y raison, n'est pas du tout réceptive au début, parce que, je sais pas, il pleut, donc les gens sont un peu déçus, ou au contraire, parfois, il fait trop chaud, donc les gens sont pas hyper bien non plus, parce que vous avez un enfant qui pleure, parce que vous avez... Enfin, il y a tellement de raisons pour que ça ne se passe pas dans les conditions idéales, ben que c'est aussi un travail presque un peu de psychologie, et d'acteurs aussi, que de ben, pouvoir gérer les imprévus et de pouvoir se dire « Ok, ben, j'avais écrit ce texte-là dans ma chambre, ça sonnait plutôt pas mal. Et ben là, je me rends compte à l'instant T que ça va pas le faire. Donc ben, la petite blague que j'avais imaginée, ben, je vais peut-être la laisser tomber parce qu'il va falloir que j'appuie sur quelque chose d'un peu plus émotif pour les emmener quelque part. » Ou à l'inverse, quand je vois que c'est un peu tendu, ben essayer d'alléger l'atmosphère par un sourire, par des mots bienveillants qui vont faire en sorte que ben les invités se laissent un petit peu aller aussi.
Et ce que je trouve compliqué, c'est qu'en fait tu t'inspires, enfin pour les émotions, etc. C'est quand même basé sur les mariés, donc c'est des émotions qui eux vont les toucher, comme tu disais un peu le couple de geeks, c'est pas forcément très fleur bleue, etc. Mais du coup, est-ce que tu crois que, enfin toi, tu vas me dire, mais est-ce que tu t'adaptes un peu à l'audience finalement qui va être là ce jour-là? Parce que si eux, ils sont pas du tout dans ce mood-là, comment ça se passe?
Ma priorité avant tout reste les mariés. C'est quand même eux qui m'engagent et c'est leur journée, donc c'est quand même à eux que je veux faire plaisir en premier. Maintenant, il faut que j'embarque l'audience avec parce que les mariés, ils ont besoin de sentir que ben, derrière, leurs invités passent quand même un bon moment. Donc oui, c'est un jeu d'équilibriste en fait, mais j'ai jamais eu de problème parce que ça reste un mariage, donc c'est quand même bienveillant, les gens sont quand même heureux d'être là en général. Et puis ce qui touche en fait les gens, c'est quand souvent ils viennent me voir après, c'est de me dire waouh, on sait que ça c'est leur cérémonie et ça pouvait être la cérémonie de personne d'autre en fait.
Et là t'as gagné.
Et là j'ai gagné, exactement.
Et est-ce que avant tout ce travail de storytelling que du coup t'as appris un peu en formation?
Oui, on a appris. Après, c'est aussi de la sensibilité personnelle et on se nourrit aussi. C'est vraiment, je rigole tout le temps parce que le week-end, quand je suis en train de lire un livre, mon chéri a toujours l'impression que c'est du moment personnel, enfin du loisir pour moi. Et ça l'est, hein, je dis pas. Et en même temps, il y a toujours une partie de mon cerveau qui est un peu en recherche, en fait. C'est comme si j'étais quand même un peu au travail, en train d'essayer de chercher des inspirations ou des tournures de phrases ou des choses qui... Ah ben tiens, cette phrase-là, elle m'a fait penser à mes mariés du moment sur lesquels je suis en train de travailler. Donc oui, il y a toute cette partie où on essaye au niveau du storytelling de se dire, ben tiens... je vais chercher, en tout cas ce que j'essaye à chaque fois, c'est de chercher un angle de vue sur leur histoire qui n'est pas linéaire, qui est de leur offrir quelque chose auquel ils n'ont pas forcément pensé. Et donc ça, c'est intéressant pour moi quand les mariés ont ce moment vraiment où ils me regardent, ils ne comprennent pas trop dans la cérémonie, ils se disent waouh, enfin on ne l'avait jamais vu comme ça. Et ça, c'est ce qui m'intéresse.
Ok. Et par rapport à justement toutes ces techniques, etc., storytelling, est-ce que si on prend l'angle juste de l'écriture toute seule, t'écrivais avant, parce que tu parles beaucoup de lecture, etc., donc c'est un peu ton Pinterest à toi, les livres, voilà, mais est-ce que tu écrivais avant, comme moi, je peux écrire de la fiction ou autre?
Alors, j'écrivais pas, j'avais une grosse envie d'écriture que j'ai réfrénée pendant très 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 longtemps, parce que, et ça je pense que c'est un peu le problème aussi de l'école, d'une certaine mesure, c'est que on nous parle sans arrêt de ce qui ne va pas. plutôt que de ce qui va. Et du coup, j'avais un gros blocage en fait sur ce côté écriture. Parce que les seules écritures que j'ai fait, enfin les seules rédactions que j'ai fait, c'était plutôt pendant mes études. Et en plus, j'ai fait mes études en Angleterre. Donc du coup, j'avais une vraie facilité avec l'écriture dans la langue anglaise et pas du tout dans la langue française. Donc il m'a vraiment fallu au début, c'était très compliqué. Ben d'ailleurs en formation, c'est vraiment sur ça qu'elles ont mis. Elles ont mis le doigt. Moi, je pensais vraiment en formation, enfin que j'allais être nulle, enfin que ça allait être vraiment le gros point à gérer pour moi l'écriture. Et mes deux formatrices se sont regardées et m'ont dit en fait, enfin t'as une vraie facilité pour l'écriture, mais il va falloir que tu t'autorises en fait. Et donc ça, ben je m'en rends compte déjà maintenant. Mes premières cérémonies, elles sont peut-être assez, alors elles sont très belles, enfin hein, j'ai eu des super bons retours, mais elles sont peut-être un peu sages, on va dire, alors qu'au fur et à mesure du temps qui passe, je me rends compte que je m'autorise de plus en plus aussi à tester des trucs ou en tout cas à laisser parler mon petit grain de folie autant que celui des mariés.
En fait, t'oses plus t'as l'expérience et plus t'arrives à oser dans tes cérémonies. Et je me disais en fait. C'est un peu pareil dans le bouquin. Quand tu testes des trucs au début, tu suis vachement les techniques que bah moi je peux donner aux autres, etc. Mais en fait, tu te rends compte que t'en es à ton troisième, quatrième roman, bah tu fais genre oui bon bah la description c'est bien beau, mais là j'ai pas besoin de ça. Bon, ça veut dire que t'apprends d'une certaine manière. Quand tu parles de cette écriture là, finalement tu l'as laissée de côté vraiment complètement là, l'écriture au-delà de ton métier maintenant.
Non, au contraire, je pense que ce métier m'a libérée d'une certaine façon parce que j'écris beaucoup plus pour moi. C'est plutôt sous forme de journal. Ça m'aide aussi à canaliser pas mal mes émotions, mais en tout cas, ça m'apporte une certaine sérénité dans ma vie. Donc, je pense que j'ai enfin réussi à réconcilier cette envie d'écriture avec l'acte en lui-même. Donc ça, c'est voilà, encore une fois, c'est en ça que c'est plus qu'un métier, c'est vraiment du développement personnel dans ma vie qui est juste génial.
Ce qui est cool, en fait, c'est que ce soit là pour les cérémonies laïques, mais pour la suite dont on va parler, c'est complètement... en fait, ta matière à toi, elle s'épuise jamais, vu que c'est les gens. Et du coup, ça, c'est cool, parce que quand tu dois trouver, entre guillemets, l'inspiration pour un bouquin, de la fiction, etc., c'est quand même pas toujours pareil. Là, au moins, t'as un peu la matière qui vient à toi, donc ça, c'est chouette.
Ça, c'est vraiment génial. Enfin, pour moi, c'est Noël à chaque fois que je reçois des réponses à mes questions de mes mariés, parce que ça me fascine en fait à quel point les histoires des gens sont riches en fait. Et c'est marrant parce qu'en général, en premier rendez-vous, avant que les clients signent avec moi, ils ont toujours un peu ce côté oula, oui, enfin notre histoire, elle est un peu spéciale. Et en fait, on se rend compte que on vit tous à peu près la même chose, peut-être pas au même moment, ou enfin voilà, mais en tout cas, c'est si singulier et si universel à la fois que pour moi, c'est juste génial à lire à chaque fois. Quoi.
Ça t'est jamais arrivé justement, je sais pas, de te dire voilà, leur histoire, elle est vraiment un peu banale. Enfin, genre, je sais pas trop quoi en sortir ou.
Non, c'est jamais banal. C'est ça qui est top. C'est que même quelque chose qui peut paraître hyper banal, enfin. Il y a toujours quelque chose à en sortir qui est magique et qui n'appartient qu'à eux. Et ça, c'est vraiment ma petite Madeleine de Proust à moi, c'est de trouver vraiment ce petit truc qui fait que, on peut même pas en mettre des mots. Et parfois, c'est assez frustrant hein, parce qu'on est sur un job d'écriture et en même temps, on a l'impression qu'on est hyper limité avec les mots qu'on a pour permettre à ces émotions-là de sortir. Donc, il y a des jours où je fais valser le dictionnaire à l'autre bout de la pièce en me disant, mais c'est pas possible, il y a rien qui correspond. Mais non, il y a toujours quelque chose à en sortir, toujours.
C'est hyper compliqué de mettre, j'avais jamais pensé à ça en fait en parlant avec toi, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de mettre des mots sur l'amour, enfin genre c'est hyper compliqué. Je vois même quand moi j'essaye d'écrire, même si je l'expérimente personnellement comme beaucoup de gens et tout, quand je l'écris pour des personnages ou quoi, ça me paraît soit niais, soit has-been, soit ça sonne faux en fait.
Je me plonge en général pendant des jours, voire des semaines entières, dans l'histoire d'un seul couple pour bien m'en imprégner, parce que sinon je peux pas passer de l'un à l'autre tout le temps, c'est pas possible. Et en général, je suis inspirée, j'écris un truc, et quand je le relis le lendemain ou quelques jours après, j'ai toujours ce moment où je me dis ah, pff, oh là là, enfin oui effectivement, qu'est-ce que ça sonne niais, ou waouh, enfin oh là là, enfin ne me dis pas que ça va être ça ma cérémonie. Mais au final, il faut faire aussi confiance à ce qu'on a ressenti. Et porter avec l'adrénaline le jour J, et encore une fois, la façon de le livrer, parce que ça reste presque une pièce de théâtre, ça reste un texte. qu'on écrit, mais ça reste avant tout un texte qu'on va surtout délivrer devant une audience le jour J. Et ça, donc, ben, il y a mille façons de le faire avec l'intonation, avec les pauses, avec la gestuelle aussi, pourquoi pas. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est un vrai plaisir à chaque fois.
Et tout ce qui est justement ce côté un peu acting, parler, etc. Et ça a été, c'était aussi dans la formation, tout ce qui est gestuel, etc.
Oui, exactement. Et ça, c'était une grosse partie aussi. On fait pas n'importe quoi parce que ça reste un moment solennel. Donc, ben, y a une espèce de code de conduite qu'on s'impose à soi-même aussi. Alors, encore une fois, hein, qui n'est imposé par personne parce que ce n'est pas un métier réglementé, mais qui est un peu notre serment d'Hippocrate à nous, enfin, celui qu'on s'est juré de respecter et avec lequel on le fait avec le cœur, quoi. Donc, oui, même au niveau des rituels, on prend pas, si on a une bougie à poser quelque part, ben, on la prend pas comme ça, comme un verre qu'on poserait sur la table. Il y a, une certaine solennité, un calme et une espèce d'autorité naturelle ou de charisme qui doit se dégager de ce qu'on fait pour que ça ait un impact aussi sur les gens qui sont en face de nous.
Okay. Pour être entendu, enfin, de la bonne manière. Parce que je suppose que quand tu as une audience comme ça, ça ne doit pas toujours être facile à gérer. Dixit, le bébé qui pleure au bout de l'allée. Au niveau de cette écriture, du coup, on parlait de l'adaptabilité à l'audience, aux mariés, aux émotions, etc. Est-ce que, donc, pour toi, c'est une écriture qui est complètement, il y a des techniques, etc., mais c'est quand même complètement adaptable à plein de situations différentes, vu que, du coup, tu te lances dans d'autres choses. Parle-nous.
Oui, j'ai commencé par les mariages parce que ça reste le vecteur le plus simple et en tout cas le plus répandu à l'heure actuelle, mais c'est en train de se développer dans plein d'autres secteurs, donc il reste des secteurs fondamentaux de la vie, donc à savoir la naissance et la mort. Bon, là, je me lance dans les cérémonies plutôt de naissance, donc baptême civil, pourquoi pas un peu ce qui se fait baby shower ou autre. Encore une fois, c'est pas forcément un but commercial derrière, c'est vraiment ritualiser et symboliser des passages de vie qui sont super importants. À l'époque, on le faisait à travers la religion. Maintenant, la religion, elle a pris moins de place dans la société. Mais les gens, ils sont toujours en recherche de ça. Et mon rôle, en fait, il va bien plus loin que effectivement juste participer à la fête parce que effectivement, on a envie de réunir tout le monde. C'est vraiment limite un acte de transmission. Enfin, moi, je le vois comme ça, que ce soit au niveau d'un baptême. Ben, vous êtes devenus parents, on est là pour célébrer l'enfant, ben, qu'est-ce que vous voulez en tant que valeur lui transmettre, qu'est-ce qu'on est là pour dire aujourd'hui. Et finalement, pour un mariage pareil, vous étiez deux personnes individuelles qui décidaient aujourd'hui d'unir vos vies, donc pour un projet commun. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on transmet là-dedans. Donc c'est mettre des mots sur ça. Et les cérémonies laïques pour les enterrements se développent aussi. Alors à l'heure actuelle, je me sens pas encore capable de le faire, mais c'est en projet. Il faudra juste, encore une fois, que je trouve ma propre vision des choses pour l'amener le mieux possible à mes futurs clients, mais surtout pour que moi ça vibre encore quand je le fais, parce que ça, émotionnellement, c'est quand même important.
Ouais, c'est compliqué. Et j'étais en train de me dire que les mariés, ils ont quand même un background quand tu les rencontres. Enfin, justement, ils ont une histoire que toi, tu vas délivrer d'une certaine manière. Mais un bébé, il n'a pas de background. Donc du coup, c'est vraiment l'histoire, c'est quand même l'histoire des parents derrière. Enfin, et justement, ce qu'ils veulent transmettre, etc. Mais yes, du coup, c'est rien sur, enfin, sur, il y a rien sur l'enfance, c'est ça que je veux dire.
Il y a plein de choses sur l'enfant, mais effectivement, de façon indirecte, on est vraiment plutôt en train de se concentrer sur les parents. Mais finalement. L'enfant, c'est que ça. Enfin, c'est la continuité des deux parents, mais en même temps, c'est préparer sa vie à lui. Et c'est peut-être juste donner un espace, et que ce soit pour les baptêmes ou les mariages ou toute autre finalement célébration pour lesquelles je suis engagée, c'est de créer un espace un peu comme une bulle, un espace d'échange, de discussion et de réflexion sur pourquoi on est là aujourd'hui. Et ça, dans tous les cas, c'est hyper intéressant. Donc, ça demande aussi de prendre un peu de recul sur plein de situations et de pas se laisser envahir par le jugement non plus, parce que quand on écrit un livre, je pense qu'on peut défendre des idées qui nous sont chères à nous. Là, ce qui peut être compliqué aussi à certains moments, c'est de ne pas se laisser trop déborder par ce qu'on pense nous et de faire honneur à ce que les gens qui vous ont fait confiance ont, eux, à défendre.
Tu dois, enfin concrètement, tu dois t'effacer un peu quoi dans ce genre de situation. Bon, en tout cas, ça amène un peu la prochaine question sur quelles sont selon toi les qualités et même les défauts finalement de ce style de métier.
Après, oui, je m'efface d'une certaine mesure parce que c'est pas moi qu'on est en train de célébrer le jour-là. Et moi, je tiens vraiment à ce que ce soit mes mariés qui aient la part belle. Hein. Enfin, en même temps, on est là pour ça. Maintenant, je pense que si en premier rendez-vous, ça colle entre nous, c'est qu'aussi on partage déjà quelque chose. Il y a des gens, on se rencontre en premier rendez-vous. Bon, bah, déjà, on sait que ça ira pas plus loin parce que, on sent tout de suite qu'on n'a pas la même vision des choses. Et je le redis toujours aux gens quand je les vois en premier rendez-vous, c'est si vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est moi, franchement, n'y allez pas, quoi. Parce que même pour moi, je vais devoir créer pour vous, je vais devoir être inspirée et raconter des choses. Et forcément, même si j'essaye de m'effacer et de ne pas juger, je suis quand même une personne, donc il y a forcément mon propre jugement qui rentre en jeu. Donc si déjà à la base, on sent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, franchement, vaut mieux se dire non tout de suite, quoi. Ça, c'est sûr.
Okay. Donc il faut quand même pas mal d'écoute et je suppose une certaine empathie quand même.
Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup d'écoute et en même temps, il faut savoir poser certaines limites parce que le problème de l'empathie et de la sensibilité, c'est qu'on peut très vite se laisser déborder par ça, notamment au niveau des mariages où les mariés et souvent les femmes sont assez stressées. Enfin, donc il faut savoir gérer un petit peu ça. Il faut savoir être à la fois dans ce qu'on nous raconte et à la fois prendre du recul sur ça. Je pense être super souriant et bienveillant et naturel parce que moi je suis pas là pour jouer un rôle. Enfin, c'est ce que je leur dis. Je suis votre messager le jour-là, mais vous me prenez aussi parce que vous aimez bien ce que je propose. Donc il faut pas avoir peur et il faut savoir gérer les imprévus. Il faut être très très bon avec un petit peu de répartie parfois. Alors toujours avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de sourire, mais effectivement. Vous avez régulièrement des petites choses qui se passeront pas comme prévu le jour J et avec lesquelles il faudra faire sans perdre ni sa concentration ni perdre l'audience. Donc ouais, ça demande un petit peu une gymnastique de l'esprit et puis un sens un petit peu de ok, il y a ce problème là, les maris ont pas besoin de le savoir, qu'est-ce que je peux faire rapidement pour gérer le truc, type un micro qui fonctionne pas ou une robe qui se prend dans un fil, parce que ça arrive souvent aussi, enfin un peu tous ces sacs à figure là.
Ça nous fait un peu peur pour nos mariages. Mais justement, pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir à cet aspect, d'improvisation, etc. Comment aujourd'hui tu pourrais définir finalement l'essence de ton métier ? Est-ce que ce serait plutôt des techniques que tu mets en œuvre, ou est-ce que c'est plutôt une authenticité ? Ou un peu de tout, justement, parce que on réfléchissait à ça, mais je me disais, quand tu vas aujourd'hui pour un mariage religieux, tu choisis pas forcément ton prêtre. Enfin, en tout cas, voilà, souvent t'es dans la paroisse, tu choisis la paroisse, mais bon, le prêtre, soit t'es très pratiquant et tu le connais depuis 15 ans, soit, comme moi, par exemple, tu n'es pas pratiquant et si tu veux te marier à côté de chez toi, tu prends celui qui est là, quoi. Donc là, le feeling, pour le coup, c'est soit ça passe, soit ça casse et t'as pas trop le choix quand même. Mais là, du coup, c'est complètement différent parce que justement on te choisit toi pour ton côté unique en fait, enfin on veut pas quelqu'un d'autre, donc comme tu dis, si jamais ça colle pas avec toi, finalement ils sont quand même libres d'aller voir ailleurs, ouais. Sachant que dans le coin il y a quand même pas beaucoup de concurrence, mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui en fait, est-ce que tu penses que ça va ce style là de cérémonie, ça va se développer de plus en plus, et le fait de justement ce métier va plus se développer parce qu'on cherche justement comme un peu dans tout, c'est un peu marketing, mais on cherche quelque chose de vraiment personnalisé et propre pour notre histoire.
Alors ce métier va clairement se démocratiser, ça c'est clair, et en même temps tant mieux si chaque officiant ou créateur de cérémonie peut amener une touche différente, parce que effectivement tu disais qu'il y a peut-être nous dans notre région peut-être pas des masses de choix, et en même temps j'ai pas envie d'être un choix par défaut, donc du coup tant mieux s'il y a de plus en plus de d'officiants, et enfin voilà, c'est toujours sympa d'en rencontrer d'autres, et moi je respecte tout à fait que moi j'ai ma vision des choses et que quelqu'un peut ne pas du tout l'avoir, et ça c'est au contraire, je trouve ça plutôt sain d'avoir différents points de vue. Oui, sinon tu me demandais pour l'essence du métier. Je pense qu'avant toute chose, c'est aimer les histoires, mais dans le sens des histoires des gens, en fait, la vie en général, en fait. Et ça, que ça soit en format un peu comme toi, en roman, que ça soit moi en cérémonie laïque, finalement, ce qu'on veut, c'est ressentir. Ce qu'on veut, c'est rêver, c'est savoir que peut-être au fond on n'est pas seul, et que à travers ces milliards d'histoires qui sont toutes différentes et pourtant toutes si uniques, toutes si semblables à la fois, on n'est pas tout seul, quoi.
En fait, moi, ce que j'ai compris là de toute cette discussion, et c'est encore, du coup, c'est encore plus intéressant que tu sois là, parce que je me suis dit que, bon, ce podcast, c'était pour l'écriture, mais pas que, c'était aussi sur le processus créatif. Et en fait, là, il est hyper complet. Parce que tu vas de l'écoute où tu vas chercher ta matière pour écrire à l'écriture, à tiens, il faut que je le mette en lumière et comment je vais faire pour le mettre en lumière. Et je trouve que genre le processus est hyper complet. Donc bientôt, si en plus derrière, tu as des témoignages de gens qui te disent bah, comment ils ont trouvé, etc. En fait, la boucle est bouclée, quoi. C'est, au final, tu n'as pas besoin, toi, de publier ou quoi. Mais est-ce que tu penses que ce serait un type de storytelling qui pourrait pour toi être adapté, pas forcément exactement comme tu fais là, c'est impossible, mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent des storytellers pour parler de leur boîte, pour parler de leur, justement, leur process. Comment tu penses qu'aujourd'hui, storytelling, il peut avoir sa place dans le business en tant que tel ?
Pour moi, le storytelling, c'est vraiment se connecter aux émotions des gens et de le faire de manière simple, en fait. Et souvent, ce qui se passe au niveau surtout des corporates, enfin, des grandes entreprises, ou des entreprises en général d'ailleurs, c'est que parce qu'on est technicien, parce qu'on évolue dans tel domaine, on rend un peu tout ça compliqué pour se donner bonne conscience et montrer qu'on est trop géniaux et qu'on est super expert sur un domaine. Ouais, mais ça marche pas. Parce que si on veut que l'audience, elle intègre ce qu'on est en train de lui dire, ben, il faut lui parler de choses simple qu'elle comprend. Alors, je dis pas que l'audience est stupide, loin de là, mais c'est vraiment juste de se connecter en fait à ce que les gens peuvent vivre au jour le jour et dans leur vie en général. Et donc, ben, il faut ramener ça à l'humain. Tout simplement, il faut arrêter de partir dans, voilà, dans des explications super compliquées. Tout est ramené à l'humain et à ce qu'on vit, en fait.
Donc, on peut avoir de l'expertise et être un humain. C'était le mot de la fin. Bon, du coup, si bah, les gens sont intéressés, déjà dans l'audience, je pense qu'il y en a, qui sont intéressés par justement bah, trouver une officiante qui leur va pour leur mariage. Moi, je connais beaucoup de gens qui veulent des cérémonies laïques, donc en soi, ça ne m'étonnerait pas que tu aies du business là-dedans. Et en plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver vu que tu écris quand même sur le sujet, etc.
Alors, ils peuvent me retrouver sur mon blog, donc c'est www.origam.com, donc O-R-I-G-A-M. .com. Et d'ailleurs, j'invite hein, toujours les gens qui me contactent et qui veulent découvrir un peu plus mon univers d'aller voir sur mon blog, parce qu'à chaque fois que je fais une cérémonie et que les gens m'autorisent à publier, je fais un petit article, ce qui permet aussi de donner ben, des idées et puis de voir un peu ce qui est possible de faire. Et puis, pour ceux qui cherchent des officiants ailleurs, il faut vraiment essayer de chercher un petit peu sur Internet, parce que parfois, ces gens-là, ils sont fantastiques, mais c'est pas les meilleurs experts au niveau des sites Internet. Donc, il faut chercher un petit peu. Et puis, vous avez des sites du type, voilà, sans les citer, des annuaires de prestataires de mariage où là encore il faut se chercher un petit peu, mais en général, en plus, c'est des gens qui se déplacent, donc c'est pas parce qu'on est dans une région qu'on doit rester en fait dans un officiant de cette région. Moi, je me déplace partout et je sais que les autres personnes avec qui je travaille, les autres officiantes avec qui je travaille, elles se déplacent partout aussi.
Ok, bon, bah merci beaucoup en tout cas.
Merci,
et puis bah, peut-être à une prochaine.
À bientôt.
Voilà pour cet épisode avec Sarah, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous ouvrir des portes, vous ouvrir à de nouveaux horizons et que vous, comme moi, vous aurez pu découvrir un nouveau métier, car officiante et créatrice de cérémonies laïques, c'est pas un métier qu'on entend souvent, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Écrire sans rature.